Bonjour, je suis Odile. J'ai rejoint la BS en 2014 en tant que donneuse de voix. J'aime bien la montagne et le dernier livre que j'ai enregistré était écrit par un auteur local, Maxence Triève. Il s'agissait de L'influence des ombres, qui est un roman policier se déroulant en Chartreuse dans les années 50. Depuis quelques années, je m'occupe, avec Raymond, de l'accueil et de la formation des nouveaux donneurs de voix. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ou redécouvrir deux petits textes de Roland Topor, tirés de Café Panique. Voici l'histoire de Pomme Vapeur. J'avais rendez-vous à 6 heures chez Panique avec Pomme Vapeur, mais il vint me surprendre chez moi sur le coup de 5 heures. Juste au moment où je m'apprêtais à partir. « Salut !» me dit Pomme Vapeur. « J'ai préféré passer tout de suite, de manière à pouvoir rentrer à la maison en avance pour faire ma valise, ce qui me permet de partir ce soir même en week-end, de façon à revenir dimanche soir au lieu de lundi, ce qui me donnera la possibilité de faire commencer tout de suite les travaux de la villa. » et de signer immédiatement pour la tournée que je ferai ce printemps et non l'été, ce qui me donnera la possibilité de préparer dès le mois de juin mon mois de septembre et me permettra de me marier à Noël au lieu du jour de l'an. Je pourrai donc partir avant la fin de l'année pour le voyage prévu l'année prochaine. Du coup, je pourrai renouveler mon bail qui arrivera à expiration aussitôt après mon retour des États-Unis. Nous aurons notre premier enfant à peu près vers ce moment-là, si bien que nous aurons le second avant le départ de Jean-Marie pour le service militaire, ce qui est quand même plus pratique, sans compter que mon frère, qui devait rentrer vers cette époque, sera sans doute en retard, ce qui risque de tout compliquer. Nous irons alors nous installer dans le petit pavillon de Mantes-la-Jolie, où je pourrai attendre tranquillement l'âge de la retraite. Ce n'est pas que je m'ennuie, mais il faut que je me sauve. Avec ma manie de trop parler, je viens de prendre du retard. Bon, alors au revoir, hein, et souhaite-moi bonne chance, j'en ai besoin. Ce type, Pomme Vapeur, on m'avait prévenu qu'il filait un mauvais coton, mais je ne l'imaginais pas touché à ce point. Voici maintenant l'histoire de Sans Moi. Ce type, Sans Moi, avait une trouille bleue du dentiste. Un jour pourtant, il se décide à prendre rendez-vous, convaincu par une nuit blanche qu'il a laissée sur les genoux. « Je vois ce que c'est, » dit le dentiste, « une vieille carie dans la molaire. Pas la peine d'avoir peur, je vais tuer le nerf, ensuite vous ne sentirez rien. » Il enfonce une longue aiguille pour sonder la carie. Profonde en tout cas. Sans moi, bouche bée, transpire à grosses gouttes. La main du dentiste pénètre dans la carie à la suite de l'aiguille, puis le bras, et finalement le dentiste lui-même disparaît à l'intérieur de la dent, comme s'il allait à la cave. Sans moi, entend l'écho de ses pas décroître. Puis il se retrouve tout bête sur son fauteuil, plus solitaire que dans la salle d'attente. Au bout d'une petite heure, il se risque à appeler. « Ohé, y a quelqu'un ?» Une voix lointaine lui répond, comme s'il était ventriloque. « Voilà, j'arrive !» Et en effet, le dentiste sort de la molaire, très à l'aise, mais le regard sournois. C'était vraiment une très vieille et très vaste carie. Maintenant que la dent est insensibilisée, je vais vous l'arracher. Vous ne sentirez rien. On ne peut pas mettre une couronne ? Demande Sans Moi, qui adore parler technique. Mais l'autre répond que ce n'est pas possible et crac ! Il arrache la molaire d'un seul coup. Par la suite, Sans Moi a appris la vérité. En explorant la dent, son escroc de dentiste a découvert des peintures rupestres. Il a fait classer le site, et maintenant on peut le visiter dans son cabinet, à condition de ne pas fumer, et de payer son ticket. Comme quoi, la moralité se perd aussi vite que les dents.
Sylvie, donneuse de temps à la Bibliothèque sonore de Grenoble. Voici deux courts extraits de « Sur la trace de Nivès » de Herri De Luca. L'auteur s'entretient ici avec l'alpiniste italienne Nivès Meroy. Notre monde repose sur les épaules de l'autre, sur des enfants au travail, sur des plantations et des matières premières payées bon marché. Des épaules d'inconnus portent notre poids, obèses de disproportion de richesse. Je l'ai vu. Dans les ascensions qui durent bien des jours vers les camps de base des hautes altitudes, des hommes et aussi des femmes et des enfants portent notre poids dans des hottes tressées. Tables, chaises, vaisselle, tentes, cuisinières, combustible, cordes, matériel d'escalade, nourriture pour plusieurs semaines. En somme, un village pour vivre là où il n'y a rien. Ils portent notre poids pour le prix moyen de 300 roupies népalaises par jour, moins de 4 euros. Les hottes pèsent 40 kilos. Mais certains en portent de plus lourdes. Les étapes sont longues. Elles fatiguent le voyageur avec son petit sac à dos et le minimum nécessaire. Des porteurs de tout notre confort marchent avec des tongs ou bien pieds nus sur des pentes qui manquent d'oxygène, la température baissant. La nuit, ils campent en plein air autour d'un feu. Ils font cuire du riz et des légumes cueillis dans les parages, tant que quelque chose sort de terre. Au Népal, la végétation monte jusqu'à 3500 mètres. Nous autres, nous dormons dans une tente avec un repas chaud cuisiné par eux. Ils portent notre poids et ne perdent pas un gramme. Ils ne manquent pas un mouchoir au bagage remis en fin d'étape. Ils ne sont pas plus faits pour l'altitude que nous. La nuit, je les entends tousser. Ce sont souvent des paysans des basses vallées de rizières. Nous avançons péniblement, en silence. Eux ne renoncent pas à se parler, à raconter, tout en marchant. Nous, habillés de couches de technologie légère, aérée, chaude, coupe-vent, etc. Eux, avec des vêtements usés, des pulls en laine archi-élimés. Ils portent notre poids et sourient 100 fois plus que le plus extraverti de nos joyeux compères. Ils nous préparent des pâtes avec l'eau de la neige. Ils nous ont même apporté des œufs ici, à 5000 mètres. Sans eux, nous ne serions ni agiles, ni athlétiques, ni riches. Ils disparaissent en fin de transport. Ils se dispersent dans les vallées, juste à temps, pour le travail du riz et de l'orge. Vers à soi, Herri. J'ai acheté un petit livre de proverbes népalais. L'un d'entre eux dit « La chance ne change pas les hommes, mais elle les démasque ». Il me fait penser à la chanson de Vladimir Vysotsky, un auteur-compositeur russe qui dit ceci « Si tu ne sais pas si tu peux te fier à un ami, invite-le en montagne ». Nivès. C'est vrai, la montagne démasque. Le temps qu'on passe là-haut, plus d'un mois, dans des conditions rigoureuses, bloqué, même en cas de tempête, pendant des jours, fait sortir celui que tu es, l'endroit et l'envers. Au cours de ces longues ascensions, une grande partie du temps est perdue, sous la tente, au camp de base, ou, plus inconfortablement, dans des camps plus hauts à ne rien faire. Tu fais fondre de la neige pour du thé, de la soupe, tu bavardes, tu attends que dehors le temps se rétablisse pour sortir. Nous avons battu le record d'inertie en 2004 sur la face nord du K2. Alors que plusieurs arrivèrent au sommet par le sud, nous avons eu la neige sur le dos pendant 2 mois. Notre espoir de pouvoir nous lancer a été bafoué tous les jours. Mais pour moi, même ce temps immobile n'est pas à mettre au rebut. On se sauve avec une histoire, une voix familière, des pâtes à la sauce tomate. En 2004, nous sommes partis début avril pour le Lhotse et nous sommes rentrés chez nous fin août après la saison au K2. Je n'ai jamais regardé ma montre pour savoir l'heure, je ne me lasse jamais d'être là-haut. mais j'ai vu plusieurs alpinistes exaspérés. Ivan Valero, avec nous cette année au Daoulagiri, l'alpiniste de l'Équateur, qui a presque bouclé le tour des 8000, disait « La vertu principale est la paciencia. Attendre, jusqu'à oublier qu'on attend. On passe des nuits enfermés, sans bouger, pendant que le ciel baisse et vient prendre la montagne. Je suis sous la tente, en train de réparer quelque chose ou de lire, car là-haut, un alpiniste a le temps de vider une bibliothèque. Je ne me pose pas à l'écoulement de l'inertie. Certains d'entre nous la subissent. Moi, au contraire, j'aime laisser aller le temps, les heures paresseuses d'une caravane immobile. On attend que revienne le propre, que le ciel remonte le plus haut possible et nous donne sa permission. Ce temps qui irrite les hommes me fait plaisir, même quand il dure des jours d'affilée. En juillet et en août 2004, nous sommes restés bloqués sous la neige pendant des semaines au K2. Les hommes hurlaient d'impatience. Moi, je savourais le temps qui nous tenait serré dans son poing. Il émiettait nos journées dans une continuelle pénombre et tu devais regarder ta montre pour savoir à quel moment du jour on était. Quand le temps n'est que neige et ces heures flocons qui tombent, tu sors seulement pour dégager la tente et ne pas être enseveli. Il ne s'agit pas de patience pour moi, elle est masculine. La patience est ennuyeuse. Tu dois t'en souvenir, tu dois te l'imposer. Moi, je me sens accueillante avec le temps, quel qu'il soit en montagne, et je me sens accueillie dans son courant, même quand il a l'air immobile. Là-haut, même à la belle saison, si tout va bien, nous passons la moitié du temps sous la tente. Tel est le rythme. Des jours à monter et descendre avec nos chargements, puis des jours à faire les vers à soie dans le cocon des sacs de couchage. Vous pouvez emprunter sur la trace de Nives de Herri de Luca à la Bibliothèque Sonore de Grenoble sous le numéro de cote 7029.
Bonjour, je m'appelle Marise Le Chartier et je suis bénévole à la Bibliothèque Sonore de Grenoble depuis 2003. En tant que donneur de temps, j'enregistre les retours de vos audiolivres et en échange, selon vos souhaits, je vous en envoie d'autres. Quand vous n'avez pas de liste, j'essaie au mieux de trouver des auteurs que vous pouvez apprécier ou vous en faire découvrir que j'ai personnellement aimé. Et à ce sujet, je voudrais vous recommander deux livres. Le premier, La Tresse, de Laetitia Colombani, qui est un premier roman et qui a été enregistré sous le numéro 8313 d'une durée de 5h20. C'est l'histoire de trois femmes, trois vies sur trois continents. Il y a Smita, qui appartient à la caste des intouchables. Elle vit en marge de la société et a pour fonction de nettoyer les toilettes publiques. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable, décide de vendre sa tresse et permet à sa fille d'entrer à l'école. Et son mari, un homme doux et conciliant, accepte ce choix audacieux à contre-courant des normes sociales rigide et inégalitaire de cette société de caste. Il y a également Julia, en Sicile, 20 ans, qui travaille dans la petite entreprise de son père et comme les autres ouvrières, elle traite des cheveux en parlant d'amour et de la vie. Elle est spécialisée dans le tri des mèches décolorées. Par ailleurs, elle adore lire et alors qu'elle rentre de la bibliothèque, elle apprend que son père est victime d'un grave accident et que l'entreprise est en faillite. À Montréal, il y a Sarah, qui est cadre supérieur et qui travaille dans un prestigieux cabinet d'avocats. Alors qu'elle va être promue à la tête de ce cabinet, elle apprend qu'elle a un cancer du sein. Elle organise alors une stratégie de défense car elle veut à tout prix sauver les apparences pour maintenir sa carrière. Les filles liées sans le savoir parce qu'elles ont de plus intime et de singulier, elles refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. Une très belle histoire de cheveux qui fait le lien entre ces trois continents. Le deuxième est un livre de Claudine Gallet, enregistré sous le numéro 7581, d'une durée de 5 heures 12 minutes, et qui s'appelle « Seule Venise ». Abandonnée par son compagnon, elle quitte tout, vide son compte bancaire et arrive à Venise. Noël approche et la cité s'enfonce dans les brumes. Elle s'installe dans une pension de famille tenue par Luigi. Elle y rencontre un prince russe cloué sur un fauteuil roulant et installé à la pension depuis de nombreuses années. Il y a également Valentino et Carla, un jeune couple d'amoureux. Et au détour des rues désertes de Venise, qu'elle arpente toute la journée, elle rencontre un libraire, Dino, amoureux des mots et de la peinture, avec Zora Music, qui est un peintre rescapé des camps de concentration. Les rencontres se succèdent, les digues intérieures s'affaissent et Venise se dévoile, secrète et troublante. Voilà deux livres que je vous invite à découvrir. Bonne lecture !